mars 2018. Bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Et c'est Maurice Bolduc qui est là à la mise en onde. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Avez-vous préparé une chronique éphéméride?
Ah,
oui,
Et qu'est-ce que ça dit? Ben, ce 15 mars, c'est la Journée internationale de lutte contre les violences policières.
Ah oui.
Et à chaque année, ça amène une manifestation.
Oui, il y en a une aujourd'hui.
Donc, dans la neige.
Oui.
Le 15 mars,
c'est
la slush et la gadoue, comme dirait l'autre. Et aussi, le 15 mars, c'est la Journée internationale des droits des consommateurs. Donc, soyez à l'affût. Faut pas se faire avoir. En quelques événements, en 1521, le navigateur portugais Ferdinand Magellan débarque aux Philippines. En 1603, Samuel de Champlain entreprend son premier voyage en mer. Cinq ans plus tard, il fondera la ville de Québec en 1608. En 1713, à Trois-Rivières, il est ordonné aux propriétaires de construire des trottoirs en bois en face des maisons. Donc, on tient ça propre un peu. En 1776, aux États-Unis, le Congrès continental renie la couronne anglaise. L'indépendance sera proclamée le 4 juillet qui suivra. Pardon, petit chat dans la gorge.
Ben oui, un petit chat, ça arrive.
En 1831, c'est la parution de Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Donc, ça a quand même 150 ans. Quasiment 200. En 1916, une armée de 16 000 Américains est envoyée au Mexique pour y capturer le chef révolutionnaire Pancho Villa. En 1917, en Russie, le tsar Nicolas II abdique, cédant la place au gouvernement d'Alexander Kerensky, Georgi Lov et Paul Miliklov. Excusez-moi pour la prononciation. Et ce sera suivi par la Révolution d'octobre quelques mois plus tard. En 1921, le Rwanda est cédé à l'Angleterre par la Belgique. En 1949, à Québec, le feu ravage le Colisée qui sera reconstruit en plus grand sur les terrains de l'Expo provinciale. En 1957, une commission d'enquête fédérale recommande de réduire les pouvoirs de réglementation de Radio-Canada, ce qui permettra la création de réseaux privés de télévision. En 1963, les États-Unis proposent d'installer un téléphone rouge entre Washington et Moscou pour éviter des conflits accidentels. En 1971, l'Ontario, poursuit pour 35 millions de dollars d'or chemical pour pollution au mercure à Sarnia. C'est en 72, c'est The Godfathers, donc le parrain apparaît par M. Francis Ford Coppola. En 1982, Fuji lance le premier appareil photographique jetable. En 91, en patinant pour la France, les Canadiens Isabelle et Paul Duchesne deviennent champions du monde de danse. En 2004, les astronomes américains annoncent la découverte de Sedna, le corps céleste le plus éloigné connu du système solaire. Et plus récemment, en 2008, Monique Leroux devient la première femme qui devient dirigeante du mouvement Desjardins qui succédait à Alban Damour. Quelques naissances. En 1944, M. Jacques Doyon, réalisateur scénariste français, père de Lou, la chanteuse Lou Doyon, actrice, et aussi la fille et la plus jeune fille de Jane Birkin. En 1944, Francis Mankiewicz, qui lui nous a quitté en 1993, réalisateur, scénariste québécois. Il nous a donné, entre autres, Les bons débarras. 1946, naissait Diane Juster, chanteuse québécoise. Et Marc Belland, lui, c'est son anniversaire, ancien danseur et acteur québécois. Qui est né
ancien danseur, il danse toujours.
Il danse toujours,
oui. Oui, à l'occasion, mais il joue surtout.
Parce qu'on l'a connu à l'époque avec la Human Step.
Oui.
Avant de faire le saut du côté de la...
C'est le cas de le dire.
Oui.
Mais il y a une formation d'acteur aussi.
Oui. Donc, né
quel
en 58,
âge aujourd'hui?
Donc il y a 60 ans.
Oh, bon anniversaire, Marc Belland.
Oui. Et on souligne un décès. Jules César a été assassiné en 44 avant Jésus-Christ.
Toute une chronique, hein? Il s'en est passé des choses un 15 mars.
Quelques-unes.
Merci, Maurice. Enquête de suspect d'agression à président de commission, Camille Picard, président par intérim de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, a fait l'objet d'une enquête policière pour une agression sexuelle commise en 1983 sur un adolescent à qui il a plus tard versé 50 000 $ dans le cadre d'un règlement au civil. Des informations délicates qui n'ont jamais été transmises au gouvernement, c'est une enquête de Gabriel Duchesne, Katia Gagnon et Tommy Chouinard. Exclusif à la presse, pas de chair, Brian Mulroney. L'Université Laval renonce au projet rejeté par une majorité de professeurs de la faculté de droit. L'actuel président par intérim de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Camille Picard, a fait l'objet en 2007 d'une enquête policière pour agression sexuelle sur un mineur et a versé 50 000 $ à l'homme qui alléguait avoir été violé. Des informations qui n'ont pas été transmises au gouvernement à l'époque de sa nomination à un des plus hauts postes de la fonction publique. Dans la foulée d'une enquête de plusieurs mois, le service de police de la ville de Québec a soumis en 2008 un dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales concernant Camille Picard, mais ce dernier n'a jamais été accusé au criminel en lien avec cette affaire. Il a conclu un règlement financier à l'amiable au civil avec la personne qui disait être sa victime 2 ans après la fin de l'enquête. M. Picard dirigeait alors le centre jeunesse de la Montérégie. Il a conservé son emploi. Joint par téléphone mardi matin, Camille Picard a nié les allégations en bloc, affirmant même ignorer qui était la victime. Mis devant le libellé de la plainte déposée à la police, M. Picard a dit être renversé. « Écoutez, je ne sais pas d'où vous sortez ça. Je suis surpris et débalancé par ce que vous me dites, a-t-il déclaré. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un qui n'a pas été accusé et qui n'a pas fait ça. Hier, il a fait parvenir une mise en demeure à la presse dans laquelle il nie catégoriquement les allégations. M. Picard est encore aujourd'hui identifié dans les archives policières de Québec comme suspect dans un dossier d'agression sexuelle. Contacté par la presse hier, le cabinet de Philippe Couillard a été catégorique. Ce sont des éléments qui nous étaient totalement inconnus. Les habilitations sécuritaires qui avaient été faites étaient positives, a affirmé le directeur adjoint, responsable des relations avec les médias, Charles Robert. À partir de maintenant, on prend connaissance des faits. Des vérifications sont en cours. L'histoire remonte aux années 80, elle n'a fait surface qu'en 2007. Camille Picard, qui a passé plus de 30 ans dans le réseau de la protection de la jeunesse avant d'être nommé à la CDPDJ, dirigeait alors le Centre jeunesse de la Montérégie. Au printemps 2007, le SPVQ a été saisi d'une plainte le concernant pour des infractions qui auraient été commises au milieu des années 80 sur un adolescent de 16 ans. Le plaignant, Yvan Côté, affirmait avoir été forcé d'avoir des relations sexuelles allant de la masturbation à la sodomie, à 7 ou 8 reprises avec M. Picard sur une période de plusieurs mois. Les faits reprochés se seraient déroulés à Québec. M. Côté vivait à Lévis avec sa mère et M. Picard était coordonnateur clinique au Mont-Diouville, centre d'hébergement pour jeunes en difficulté. Devant ces allégations, Camille Picard a répondu mardi la chose suivante. « Ben voyons donc, c'est impossible. Au Mont-Diouville, je n'avais pas de contact avec les jeunes. » Précisons que le plaignant n'était pas un pensionnaire de l'endroit. M. Côté, le plaignant, est mort en 2012 à l'âge de 45 ans. Il avait conservé plusieurs documents judiciaires et des éléments du dossier d'enquête du SPVQ, dont l'entente liée à la quittance de 50 000 $ et sa déclaration solennelle écrite faite aux enquêteurs. La presse les a obtenus. Et Maurice vient de me dire que, en nouvelle de dernière heure, Camille Picard vient de démissionner.
Oui, il a été remplacé par Tamara Termitus qui va assurer l'intérim de la Commission des droits de la personne en attendant.
Alors, c'est lui qui remplaçait Mme Temirus et là, c'est lui qui sera remplacé.
Ouais.
Donc, à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Merci. Scientifique et visionnaire et homme inspirant, Stephen Hawking, 1942-2018. Son combat contre la maladie a marqué l'imaginaire, ses théories physiques ont changé notre vision de l'univers, ses livres, ses apparitions publiques et ses films ont rapproché la science du grand public, tandis que son humour et sa personnalité conquéraient la planète. L'astrophysicien britannique Stephen Hawking, qui s'est éteint hier, laisse un immense héritage derrière lui. Pour Robert Lamontagne, astrophysicien à l'Université de Montréal, Stephen Hawking est tout simplement l'un des physiciens les plus importants de tous les temps. C'est en étudiant les trous noirs que Stephen Hawking parvient à unir les deux grandes théories de la physique moderne. Le physicien britannique est d'abord parmi les premiers à considérer ces objets supermassifs non pas comme des artefacts mathématiques découlant de la théorie d'Einstein, mais comme des objets réels. Hawking fait ensuite un lien époustouflant entre les trous noirs et le Big Bang à l'origine de l'univers. Hawking dit « Le Big Bang est exactement la même chose qu'un trou noir. C'est une singularité, un point infiniment dense. La différence, c'est que le Big Bang est l'explosion d'une singularité, tandis qu'un trou noir est une compression jusqu'à une singularité », explique Julie Lavacek-Larondo. C'est en appliquant les règles de la mécanique quantique aux particules se trouvant à la bordure des trous noirs que Stephen Hawking déduit que les trous noirs émettent du rayonnement, appelé depuis « rayonnement de Hawking ». La thèse vient contredire celle voulant que rien ne puisse s'échapper d'un trou noir et établit ce fameux premier lien entre théorie gravitationnelle d'Einstein et mécanique quantique. Un homme doublement remarquable selon Hubert Reeves. Une indéniable contribution scientifique, un incroyable modèle de volonté. Hubert Reeves n'a pas manqué hier de rendre hommage à son collègue Stephen Hawking, mort la veille. Les deux astrophysiciens se sont parfois rencontrés à l'Université de Cambridge. Vedette dans le domaine, il partageait le même goût pour la vulgarisation scientifique. C'était un homme doublement remarquable, fait valoir Reeves, que la presse a rencontré dans son appartement parisien. Remarquable pour son apport de très grande importance à la cosmologie contemporaine et remarquable pour son courage et son énergie de vie. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, a déposé hier le projet de loi 173 qui vise à instaurer un revenu minimum garanti au Québec. Lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale, il a expliqué que la mesure aidera à terme quelques 84 000 personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi et qui sont prestataires du programme d'aide sociale depuis au moins 66 des 72 derniers mois. Par exemple, une personne handicapée qui touche actuellement 12 500 par année verra son revenu grimper à plus de 18 000 en 2023. Angela Merkel a entamé hier son quatrième mandat de chancelière allemande, mais pas tout à fait intacte. Émoussée par 6 mois d'imbroglio politique, la politicienne devra faire face aux défis du populisme et de la refonte de l'Union européenne. Signe de ses difficultés, elle n'a obtenu au cours du vote à bulletin secret au Bundestag, la chambre basse du Parlement, qu'une courte majorité de 364 suffrages, soit 9 voix de plus que la majorité absolue, mais surtout 35 de moins que les 399 élus conservateurs et sociaux-démocrates de sa coalition. Face au spectre d'un siège ou d'un assaut imminent sur Afrin, ville kurde de Syrie encerclée par l'armée turque, de nombreux civils au sein d'une population de 350 000 personnes tentent de fuir la ville. Ils y manquent d'eau, de nourriture et de médicaments, ce qui fait craindre un nouveau drame humanitaire en Syrie. L'armée turque et des supplétifs syriens ont quasiment encerclé la ville, principale cible de leur offensive sur le bastion des unités de protection du peuple, considéré comme un groupe terroriste par Ankara, mais allié aux Occidentaux dans la lutte anti-djihadiste. Afrin sera complètement tombée d'ici ce soir, a assuré hier matin le président turc Erdogan, avant que la présidence tempère ses propos, précisant qu'il espérait en fait que l'encerclement de la ville soit achevé d'ici hier soir.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en l'emportant le duvet qu'était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien. C'est bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent et c'est très bien, et ce n'est qu'une tourterelle.
D'entendre Sylvain Dutu qui revoyait une pièce de papa Julien Clerc, oui, et ce n'est rien.
En une du Devoir, une photo éloquente, une fille qui semble crier, bouche ouverte, et sur la joue on peut lire NRA ou NRA. États-Unis, moins d'armes, moins de larmes, de New York à la Californie, de Chicago jusqu'au Texas, des milliers d'élèves américains ont marché munis de pancartes et de slogans pour réclamer un meilleur encadrement de la vente d'armes aux États-Unis, écœurés de voir des tireurs faire irruption dans des établissements scolaires pour y faucher des jeunes auxquels on promettait un bel avenir. Réduction de la dette, les agences de notation impassibles. Le remboursement anticipé d'une partie de la dette à même le Fonds des générations n'influencera pas la note du Québec. Bloc québécois, les appuis à Martine Ouellette auraient été exagérés. L'appui de présidents d'associations locales n'engageait pas toujours l'exécutif. Stephen Hawking, l'héritage d'un géant. L'astrophysicien a rendu sa science accessible au grand public, qu'il a aussi touché par sa détermination hors du commun. Il y a une photo de M. Hawking qui aura déjoué tous les pronostics, lui à qui les médecins ne donnaient que 2 ans à vivre, alors qu'il commençait à peine sa vie adulte. Le célébrissime physicien britannique Stephen Hawking, qui émouvait le grand public par sa grande intelligence, tapis dans un corps impotent, est mort mercredi 14 mars à 76 ans. Alors qu'il n'est âgé que de 21 ans en 63, il apprend qu'il est atteint de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative qui ne lui laisse que 2 ans à vivre. Et pourtant. Télé-Québec, Électron libre, c'est le titre d'une émission, ne reviendra pas à l'écran. Empoisonnement. Londres expulse 23 diplomates russes. Culture. Black Panther. Anatomie d'un triomphe. C'est la chronique d'Odile Tremblay. Le ministre des Finances, Carlos Letao, refuse de présenter ses excuses à la coalition Avenir Québec qu'il a accusée dans une entrevue à The Gazette d'être partisane du nationalisme ethnique. Les propos que j'ai tenus la semaine dernière ne visaient surtout pas à caractériser la CAQ ou M. Legault comme raciste. « Je vous mets au défi de trouver ces mots-là », a-t-il déclaré à la sortie d'une séance du Conseil des ministres. En effet, M. Letao n'a à aucun moment taxé la CAQ de raciste durant son entrevue à The Gazette la semaine dernière. En revanche, le député de Robert Baldwin a reproché aux favoris des sondages de s'être drapé d'un nationalisme ethnique. Le genre de nationalisme que propose la CAQ est, à mon avis, un nationalisme ethnique. Je n'ai pas peur des mots. C'est ça qui est ça. Il considère que la majorité française est attaquée par tous ces étrangers, a-t-il affirmé dans un entretien publié mercredi. François Legault s'est indigné des propos tenus par M. Letao dans le quotidien anglophone montréalais de Gazette. « C'est de la sale petite politique. Je pense que là, les libéraux viennent de dépasser les bornes », a-t-il lancé, bleu de colère. Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a pour sa part dénoncé l'intolérance crasse de M. Letao et de M. Couillard à l'égard des formations politiques qui offrent d'autres visions de l'identité et du nationalisme que celles défendues par le PLQ. Le protecteur du citoyen a de nouveau sonné l'alarme sur les conditions inhumaines de détention des Inuits qui ont toujours cours dans certains villages du Nunavik. À la suite d'un rapport d'enquête dévastateur publié en 2016, certaines recommandations ont été appliquées, mais d'autres, pourtant très urgentes, ne l'ont pas été, a affirmé devant la commission Vient l'un des enquêteurs qui revient tout juste d'un séjour de suivi dans le Grand Nord. La principale recommandation était et demeure la construction d'un centre de détention à Puvirnitouk, où les quelques cellules du poste de police ne suffisent plus aux besoins et posent des risques pour la sécurité. Certains détenus devaient même être menottés aux poignées de portes extérieures des cellules, faute d'un nombre suffisant de cellules. Des discussions entre le ministère de la Sécurité publique, l'administration régionale Kativik et d'autres acteurs concernés devaient permettre de concrétiser le projet. Magnifique photo hivernale, alors tout blanc dans un parc et on voit une personne qui marche avec un vêtu d'un manteau rouge. Et sac à dos, l'hiver refuse de se faire oublier. Sous la photo, on peut lire à moins d'une semaine du printemps, une tempête hivernale a balayé le Québec mercredi, laissant des accumulations de neige qui ont atteint presque 40 cm en Gaspésie et au Nouveau-Brunswick. Les Montréalais, pour leur part, ont reçu une vingtaine de centimètres de neige depuis mardi. Dans l'est de la province, la neige et les vents ont provoqué la fermeture de plusieurs routes et des écoles ont aussi été fermées. Les policiers de Montréal ratissent à nouveau mercredi le secteur de l'arrondissement Downsick-Cartierville et les berges de la rivière des Prairies où Ariel Jeffrey Kouakou, un garçon de 10 ans porté disparu depuis 48 heures, a été vu pour la dernière fois. Ariel Jeffrey Kouakou mesure 1,40 m, environ 4 pieds 8 pouces, pèse 40 kg, environ 90 livres, il a la peau noire, les yeux noirs et les cheveux noirs et s'exprime en français. Au moment de sa disparition, il portait un manteau noir avec un capuchon, un pantalon gris, et des souliers jaunes. Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant la disparition d'Ariel peut le faire de façon anonyme et confidentielle à Infocrime Montréal au 514-393-1133 ou en composant le 911. Triste nouvelle, Marc-André Leclerc et son compagnon de cordée sont morts en Alaska, a annoncé sur les médias sociaux le père du jeune alpiniste de 24 ans. Marc-André Leclerc, originaire de la Colombie-Britannique, mais dont la famille est du Québec, et Ryan Johnson, 34 ans, devaient gravir le glacier Mendenhall du 4 au 7 mars. Leurs proches étaient toutefois sans nouvelles d'eux depuis. Une importante tempête de neige s'est abattue sur la région mercredi dernier, et aucun des deux alpinistes n'était équipé d'une radio satellite ou d'un phare d'urgence. Les recherches des derniers jours ont permis de confirmer la mort des alpinistes. Restez avec nous, le quotidien des quotidiens se poursuit après la pause et la chanson.
Sans cesse, je t'ai parlé vague, joue sans cesse là-bas. À présent, l'orage dort sous la grève. Tout gorgé d'eau, le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas reposé. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautour. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautour. Arrive-t-il d'un pays lointain? Ce volatile au regard éteint, moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire rétive. Alors du temps qui passe, je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes. Un souvenir de plus du pauvre oiseau reconnu. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aigus et une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aigus et une poupée vaudou. Je te mettre à brûler des roulois lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Rien que je te mette à l'abri des longs doigts lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau moqueur. Pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau.
On vient d'entendre la formation française Feu Chatterton et la pièce L'Oiseau.
En une du Journal de Montréal de ce 15 mars 2018, forme extrême à 55 ans, meilleur Canadien en lice pour les Jeux mondiaux de CrossFit dans sa catégorie d'âge, Richard Cossette veut être l'homme le plus en forme de la planète. Plus dur que prévu de faire, entre guillemets, les recettes du Doc Barrette. Une photo de Michaël Jean et sous ou sur la photo, un chauffeur privé pour son mari. Le choc des idées, les chroniques de Joseph Facal et de Michel Girard. Celle de Joseph Facal s'intitule « Le magasin de jouets de Justin » et celle de Michel Girard « Nous payons des milliards en tarifs ». Implantation retardée des menus du Dr Barrette, les aînés du Québec ne sont pas prêts de goûter au nouveau menu. Réorganisation difficile, délais, objectifs irréalisables et contrats sans appel d'offres avec le privé. L'implantation des nouveaux menus pour aînés, dévoilée en grande pompe par le ministre Barrette, est chaotique et sera retardée dans la majorité des établissements. Le projet de révision de l'offre alimentaire en centre d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, devait être implanté dans tous les établissements du Québec d'ici le 31 mars, selon le document du ministère de la Santé, dont le Journal de Montréal a obtenu copie. Or, presque tous les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, CIU3S, n'atteindront pas l'objectif fixé par le ministre Gaétan Barrette. Certains font même affaire sans appel d'offres avec des fournisseurs privés de nourriture transformés pour dissimuler les retards. En 2016, le ministre Barrette a fait une sortie spectaculaire afin de déguster publiquement les nouveaux menus et promettre leur arrivée imminente dans les CHSLD. Alors que le plan devait permettre l'harmonisation et l'amélioration des services alimentaires, les directions semblent laissées à elles-mêmes. Dans certaines régions, il n'existe aucune ligne directrice. La distribution dans certains CHSLD est également rocambolesque, alors que des administrations ont même utilisé des taxis pour livrer la nourriture. Les syndicats qualifient le projet d'irréalisable à cause des compressions dans le système de santé et du manque de reconnaissance des salariés. Alors, dans les CI3S qui sont dans les délais, le Journal de Montréal publie le CISSS de la Montérégie-Ouest, celui de l'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, qui est en projet pilote, et celui de la Gaspésie. En retard ou hors délai, il y en a plusieurs, dont Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean, centre-ouest de l'île de Montréal, Outaouais, aussi Côte-Nord, Estrie, Lanaudière, Mauricie et Laurentides. un chauffeur privé pour le mari de Michaël Jean. Il n'a aucune fonction officielle avec l'Organisation internationale de la francophonie. Interrogé à ce sujet, le chauffeur Laurent Demory a confirmé qu'il est un salarié de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, au service de Jean-Daniel Lafont. « Je m'occupe de ses déplacements et je suis payé par l'OIF », a-t-il dit hier lors d'un entretien téléphonique. Madame Jean a suscité la controverse au cours des derniers mois, notamment en raison des dépenses pour son appartement de fonction, mis à sa disposition par l'OIF à Paris. À l'occasion d'un passage à l'organisation, la semaine dernière, le premier ministre Philippe Couillard a réclamé une gestion plus transparente à Madame Jean. Lorsque Abdou Diouf était secrétaire général de l'OIF de 2003 à 2014, son épouse disposait d'une voiture avec chauffeur. Les coûts étaient payés par le Sénégal, dont il a été président de la République de 1981 à 2000, a-t-on appris. Louis Bélanger, directeur des communications de la ministre canadienne de la francophonie, a assuré que le gouvernement fédéral n'offre rien de tel à Mme Jean, ex-gouverneur général du Canada. Le commissaire à la vie privée du Canada se penchera sur les pratiques de l'épicier Loblaw qui demande à certains clients des preuves d'identité avant de leur offrir la carte cadeau de 25 $ liée au cartel de fixation des prix du pain. L'organisme fédéral a indiqué avoir demandé à la chaîne d'alimentation davantage de renseignements à ce sujet hier sur son compte Twitter. Loblaw s'est défendu en disant que la pratique ne visait pas tous les clients, que les documents demandés ne servaient qu'à des fins d'identification et qu'ils seraient détruits. Notre plan pour distribuer des dizaines de millions de dollars est une cible de choix pour les fraudeurs. Et nous voulons nous assurer que l'argent se retrouve vraiment dans les mains de nos clients, a fait savoir Kevin Groh, vice-président des affaires corporatives et des communications de l'entreprise dans une déclaration transmise à l'agence QMI. Le coût du programme de remboursement est évalué entre 75 et 100 millions de dollars. Le chef du NPD nie défendre le terrorisme. Des images d'un rallye auquel Singh a participé en 2015 montrent qu'une photo d'un extrémiste était visible. Face aux révélations selon lesquelles il a participé en 2015 à un rassemblement sikh glorifiant un violent séparatiste, le chef du nouveau parti démocratique, Jagmeet Singh, s'est défendu hier matin d'appuyer le terrorisme. « Je condamne tous les actes de terrorisme partout dans le monde, peu importe qui les commet. » Et qui en sont les victimes? Un enseignant a blessé accidentellement un étudiant pendant une présentation impliquant une arme à feu chargée dans une école secondaire de la Californie hier. Un coup est parti alors que l'enseignant, un agent de police réserviste, pointait son arme vers le plafond d'une classe, rapportait le Washington Post, hier en citant plusieurs sources locales. La balle aurait ricoché et des fragments auraient atteint l'étudiant au cou. L'adolescent de 17 ans n'a subi toutefois que des blessures mineures. L'incident est survenu dans une école de Seaside à 180 km au sud de San Francisco. L'enseignant, pourtant formé dans le maniement des armes, voulait apparemment faire une présentation sur la sécurité publique. En Californie, le port des armes est interdit dans les écoles, à moins de disposer d'une autorisation particulière, ce qui n'était pas le cas pour l'enseignant. « Elle lui pardonne d'avoir tué son fils. Le crime m'a amené au bord de la folie, mais j'ai fait le choix de lui pardonner. J'espère qu'il va utiliser son temps en cellule pour travailler sur lui-même et apprendre à se pardonner, a lancé avec émotion Dominique Narcisse hier au Palais de justice de Montréal. Madame Narcisse assistait à l'audience de Yann Charbonneau pour le meurtre d'Ali Hussein Jean, survenu dans un appartement de l'arrondissement de la Chine en janvier 2014, dans ce qui a tout l'air d'un vol qui a mal tourné. Arrêté 3 ans plus tard, l'accusé de 31 ans a plaidé coupable hier d'homicide involontaire et de vol qualifié. Il a écopé de 11 ans de pénitencier. Assis dans le box des accusés, Charbonneau, la tête basse, semblait secoué par les témoignages de proches présents dans la salle d'audience. « J'ai été consumé par le désespoir », a expliqué Jamila Jean, la sœur de la victime, en s'adressant directement à l'accusé. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que ma famille a ri, qu'elle était heureuse. » La mère de la victime dit avoir souffert énormément, elle aussi. Malgré sa douleur, elle a finalement décidé d'emprunter la voie du pardon. « Je ne veux plus écouter ces voix qui cherchent vengeance », a commenté Madame Narcisse. « C'est parfois dur de pardonner, mais ça rend l'esprit plus léger. » Elle a depuis fondé un organisme au nom de son fils dans le but d'aider la communauté. De son côté, Charbonneau n'a pas souhaité s'adresser à la cour, disant n'avoir rien à apporter de plus. En plus d'être incarcéré, il lui est interdit de posséder des armes à feu pour le restant de ses jours.
J'ai regardé, j'ai même parfois touché. Quand il faisait trop noir, je suis retournée tenter encore une fois ma chance. Mais les gens ne pensent qu'à boire. Quand tout d'un coup le cinéma commence, chacun vit une histoire, ouais, dans les cinémas bars. On voit de tout, chacun joue le rôle dans tes. Il a toujours rêvé. Va au cinéma, bar de ton quartier, jouer à devenir n'importe qui. J'ai vu des hommes se prendre pour des femmes dans les cinémas, bar. J'en ai vu d'autres insulter quand on leur dit madame. Mais comment peut-on savoir quand tout le bar m'abrège la bonne. À son client troublé, ensuite il reste rien de personnel qui fait tout oublier. Ouais, dans les cinémas, pas on voit de tout. Chacun joue le rôle dont il a toujours rêvé. Va au cinéma, pas.
Andrea Lindsay qui nous chantait les cinémas bars.
Allons-y avec les journaux régionaux. Dans le droit, sous la plume de Benoît Sabourin, le Rockfest de Montebello dévoile sa programmation. Prophets of Rage, Weezer, Stone, Temple Pilots, Five Finger Death Punch, Godsmack et Tenacious D sont les grosses pointures qui fouleront les planches des différentes scènes du Rockfest de Montebello du 14 au 16 juin. Les organisateurs ont dévoilé le contenu de la programmation 2018 de l'événement mercredi en direct des Foufounes électriques à Montréal. La comédienne France Castel agissait à titre de présentatrice d'honneur de la conférence de presse. « Je ne voulais pas faire comme l'an dernier où beaucoup de gens nous ont reproché d'avoir mis le budget sur un gros nom seulement, Rammstein. Je voulais avoir plusieurs gros noms et répandre le budget sur l'ensemble de la programmation. C'est ce qu'on a fait et je pense qu'on a beaucoup de trucs pas mal cool », lance d'emblée le président et fondateur du Rockfest et directeur artistique de l'événement, Alex Martel. Dans le soleil, la chroniqueuse Mylène Moisan qui signe une chronique intitulée « Entretenir le flou ». Une chose d'abord, je ne vapote pas. J'ai fumé, j'ai commencé ça à 20 ans. Je faisais de la télé et niaise de même, il y avait juste les fumeurs qui prenaient des pauses. Je me suis mise à fumer des Benson's 100, plus longues que les autres pour avoir une pause plus longue. Je vous l'ai dit, c'est niaise de même. J'ai toujours fumé à temps partiel. J'ai arrêté le jour, j'ai continué à griller des cigarettes quand je prenais un verre en me disant que je pourrais arrêter n'importe quand. Évidemment, je me contais des histoires. J'étais accro, même avec quelques cigarettes par jour. Arrêter de fumer a été une des choses les plus tough de ma vie. J'ai arrêté seul, mais j'aurais pu faire comme bien des gens et essayer les timbres de nicotine, le ziban, l'hypnose, la gomme et tous les autres trucs qui peuvent aider à écraser. J'aurais pu vapoter. Qu'on aime ou pas, inhaler de la nicotine en réduisant la dose graduellement peut être une solution. C'est tellement vrai que Nicorette a concocté un inhalateur de nicotine qui est en vente libre en pharmacie. La forme ressemble à une cigarette, c'est voulu, telle qu'il est expliqué sur le site de la compagnie pour conserver le rituel du geste. Et ça fonctionne. La cigarette électronique découle de cette même logique. Cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, Martin Junot, est de ceux qui la recommandent. Globalement, c'est 80 % de mes patients irréductibles qui ont arrêté de fumer avec la cigarette électronique. Ce que je n'ai jamais vu avec les traitements habituels, a-t-il confié à Radio-Canada en 2014. On fume pour la nicotine, mais c'est le tabac qui nous tue. Entre deux mots, dit-on, il faut choisir le moindre. En janvier 2015, en marge d'une commission parlementaire, le ministre Gaétan Barrette avait dit ceci. « La cigarette électronique pour cesser de fumer est un moyen qui, clairement, est d'une efficacité extraordinaire. Ça a le mérite d'être clair. » Ceci étant dit, même si un certain consensus scientifique semble se dégager en faveur du vapotage, certaines inquiétudes demeurent, notamment sur le risque que les jeunes passent de la cigarette électronique à la vraie cigarette. C'est pour cette raison que le gouvernement québécois a décidé, en novembre 2015, d'assujettir les vapoteries à la loi sur le tabac, même s'il y a zéro tabac. Le problème, ce n'est pas d'avoir légiféré. Parce que la nicotine est une drogue, le gouvernement se devait de mettre des balises. Ça aurait pu s'appeler « loi encadrant l'usage et le commerce des produits de la vape ». Pas plus compliqué que ça. Le gros problème, c'est d'avoir fait du copier-coller. C'est d'appliquer les articles sur le tabac à des produits qui n'en sont pas. Ainsi, quand une vapoterie reçoit une contravention pour avoir placé des embouts de plastique dans un bol, le constat dit qu'on a exposé du tabac à la vue du public. Mais un briquet au dépanneur, c'est OK. Nos enfants peuvent facilement voir un paquet de cigarettes si le client avant nous en achète un. Ils peuvent nous accompagner à la SAQ. Ils peuvent même voir dans les vitrines de certaines boutiques de la rue Saint-Joseph et Saint-Jean, bien exposées au regard, des pipes à eau et des pipes à hache, de toutes les couleurs. Dans une vapoterie, les vitres doivent être givrées. Je vous ai raconté lundi que certains inspecteurs de la police du tabac ont une interprétation plutôt large de la loi. Ils ont le beau jeu. Les chiffres du ministère confirment que les 381 vapoteries font l'objet de deux fois plus d'inspections que les 7500 points de vente du tabac. Appelée mercredi à commenter le dossier, la ministre Lucie Charlebois a dit qu'elle n'y voyait aucun problème. On a des inspecteurs qui vont sur le terrain, qui font leur travail. Dans quelle mesure ils font quoi, ils vont où? Ce n'est pas du ressort de la ministre. Pourquoi ils vont là plus spécifiquement qu'ailleurs? Je ne peux pas vous répondre. Il faut leur demander à eux. Elle pourrait s'en informer quand même. Écrit Mylène Moisan. Le Québec a-t-il l'intention d'emboîter le pas à la Grande-Bretagne où on prescrit et rembourse depuis un an la cigarette électronique? Il n'y a pas de recherche concluante en prévention de santé. Je discute régulièrement avec différents chercheurs, il n'y a rien qui nous dit que ce genre de produit-là n'est pas du tabac ou des dérivés du tabac. Il n'y a rien qui ne nous dit pas que ça ne va pas faire en sorte qu'on a des jeunes qui vont commencer à fumer avec ça. Le même argument que servent les opposants à la légalisation de la marijuana. Et alors, pourquoi trouve-t-on en vente libre, en pharmacie, les fausses cigarettes de Nicorette? Nicorette, c'est reconnu comme un médicament, réplique la ministre. C'est bien différent. Ce n'est pas de la nicotine. On ne parle pas pantoute de la même chose. C'est en une du Nouvelliste, la cabane chez Nathalie à vendre Martin Lafrenière. Le mandat de Mme Magny est de détruire l'entreprise. Elle veut la mort de la cabane à sucre. Ce sont des faits. On met la cabane à sucre à vendre. Lévi Gay ne mâche pas ses mots pour dénoncer les relations tendues qui perdurent entre les gestionnaires de la cabane chez Nathalie et les administrateurs de la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc. Selon le conjoint de Nathalie Simard, la mairesse José Magny, fait preuve d'une fermeture telle qu'il n'y a aucun moyen de s'entendre avec la municipalité afin de permettre à l'établissement de présenter des spectacles autres que ceux offerts par les chansonniers durant les repas de cabane à sucre. Devant cette fermeture, les propriétaires de la cabane, dont Mme Simard, vont se départir des installations acquises en septembre 2014. Il n'y a pas de terrain d'entente avec la municipalité, déplore M. Gay en entrevue mercredi avec le Nouvelliste. On va régler le dossier. Je suis en train de discuter avec un agent immobilier. On vend, dû au manque de collaboration avec la municipalité de Saint-Mathieu. Tous les problèmes de l'entreprise partent de la municipalité. Ça prend trop d'énergie. Nathalie a plein de projets pour sa carrière et on va mettre le focus là-dessus. Monsieur Gay voudrait développer l'entreprise en offrant des activités complémentaires à l'exploitation d'une érablière. Cette possibilité n'existe pas, de toute évidence. On ne peut rien faire. Pas de mariage, pas de karaoké, pas de spectacle non plus. Ça fait 3 ans et demi qu'on se bat. Peut-être qu'avec un autre propriétaire, ça va mieux aller. Le bras de fer repose sur la réglementation en matière de zonage agricole. Sise dans cette zone, la cabane à sucre ne peut présenter de spectacle. La Commission de la protection du territoire agricole du Québec a émis en novembre une ordonnance empêchant la cabane à sucre d'aller dans cette direction. Le seul moyen de contourner l'ordonnance et que la municipalité fasse une demande d'exclusion de la zone agricole, ce que refuse le conseil, afin de préserver l'intégrité de sa courte zone agricole. Voilà pourquoi Lévi Gay avait mandaté il y a quelque temps Maître Marc Michaud, afin de trouver une façon de s'entendre avec la CPTAQ. La volonté du procureur de contacter la municipalité n'aboutit à rien, selon M. Gay. Maître Michaud n'a aucun retour de la municipalité. La mairesse ne veut rien savoir. On a droit à des chansonniers, mais pas à des spectacles de Nathalie Simard, pas de spectacles avec des gros noms. Mais quelle est la différence entre un chansonnier et un spectacle? La ligne est très mince. Monsieur McManus, Claude, l'ancien maire, nous laissait faire nos activités. On n'a jamais eu de plainte pour des spectacles. Mais depuis qu'elle, José Magny, est entrée à la mairie en novembre 2017, on a des problèmes. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est incompréhensible comme situation. On dirait une vengeance personnelle, croit M. Gay. Selon ce dernier, Mme Magny travaillait il y a quelques années dans un restaurant qui présentait des soirées karaoké. Ces soirées auraient connu une baisse de popularité lorsque la cabane chez Nathalie a commencé à offrir le même produit. La décision de vendre la cabane à sucre n'a pas été prise de gaieté de cœur, assure Lévi Gay. Et juste pour terminer là-dessus, le nouvelliste n'a pu joindre la mairesse de Saint-Mathieu afin d'obtenir sa version des faits. C'est Hélène Denis qui vous accompagne à l'émission Le quotidien des quotidiens. Merci d'être à l'écoute de cette émission à l'antenne de Canal M de Vues et Voix. Dans un moment, les actualités culturelles et les sujets libres.